À Washington, Morgane Guiriec et Nicolas Pineau.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition de ce vendredi 13 février 2015. À la une ce soir.
Première attaque de Boko Haram en territoire tchadien, la presqu'île de Ngouboua sur les rives du lac Tchad visée. Au Niger, un chef de Boko Haram a lui été arrêté dans la région de Diffa.
En RDC, calendrier électoral dévoilé, mais financement toujours incertain.
Nous espérons que les élections étant un problème de souveraineté nationale, le gouvernement va s'assumer. Mais n'empêche que dans le budget, la loi dit que nous avons la part du gouvernement et nous pouvons aussi bénéficier des aides bilatérales et multilatérales.
Au Burundi, mise en place d'une commission d'enquête suite aux accusations d'exécution extrajudiciaire.
Au Mali, le président Ibeka dénonce la menace pour la paix que représente Iyad Agali.
Le principal mouvement armé aujourd'hui est le HCIA, le Haut Conseil pour l'Unité de l'Azawad, a comme référence Iyad Agali.
En Ukraine, les combats se poursuivent malgré l'entrée en vigueur dimanche du cessez-le-feu.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, reprise des compétitions continentales qui succédera à l'entente sportive de Sétif en Ligue des Champions. Mais d'abord, le journal.
Bonsoir à tous. Première attaque de Boko Haram en territoire tchadien. Au moins 7 personnes sont mortes. Les djihadistes ont attaqué très tôt ce matin une localité sur les rives du lac Tchad. Michel Joseph.
En plein milieu de la nuit, 4 pirogues motorisées en provenance de Baga sont arrivées sur la presqu'île de Ngouboua. Les combattants de Boko Haram ont alors commencé à tirer sur tout ce qui bouge, selon le communiqué lu à la radio nationale par le porte-parole de l'armée tchadienne, le colonel Azem Bermandoa Aguna. Les militaires tchadiens ont alors riposté et provoqué la fuite des djihadistes. Le bilan officiel fait état d'un mort et 4 blessés chez les militaires tchadiens. Le chef de canton ayant également été tué par une balle perdue. Côté Boko Haram, 2 combattants ont été tués dans la riposte et 5 autres blessés. Il s'agit de la première attaque du groupe nigérian sur le sol tchadien, alors que le Tchad a déjà engagé ses troupes dans de violents combats contre le groupe au Nigeria.
Les djihadistes sont arrivés à bord de 4 pirogues motorisées en provenance de Baga sur la presqu'île. Idriss Fall a joint Bayana Kosingar, gouverneur de la région du lac. Il est actuellement à Ngouboua.
Il y a des éléments infiltrés de Boko Haram qui sont venus à Ngouboua. Alors, ils ont essayé de pénétrer au camp militaire, ils ont été refoulés. Et sur leur débandade, ils ont brûlé quelques maisons, quelques cases en paille. De l'autre côté, on a eu 2 militaires blessés et puis... Il y a 2 qui sont tombés. De leur côté, ils ont ramassé leurs morts. Il y en a 5 qu'ils ont ramenés. Et puis, ils sont venus à bord des hors-bord et ils sont repartis avec les hors-bord. Du côté civil, il y a eu quand même 5 morts. Des balles perdues, 5 morts.
Est-ce que l'armée les a pourchassés?
Oui, mais ils sont venus par les hors-bord et nous, on ne détient pas beaucoup de hors-bord. Ils les ont poursuivis plus d'une cinquantaine de kilomètres, ils sont revenus. C'est parce qu'ils ont décroché très tôt, vers 4h du matin. Et c'est le matin qu'on a engagé la poursuite, mais... Ils sont partis, d'abord des embarcations rapides. Une fois qu'ils ont tenté cette infiltration, voilà, la première attaque. Et serait la dernière aussi.
Pourquoi ce serait la dernière?
C'est une action de surprise qu'ils ont faite. Ils savent bien qu'ils ne peuvent rien faire ici à Ngouboua. Les forces de l'ordre les attendraient prochainement.
Donc il y a un renforcement des mesures de sécurité, quoi?
Oh, il y a un renforcement. Là, il y a beaucoup de militaires qui sont arrivés ce soir à Ngouboua. La population qui était paniquée commence à revenir aussi.
Bayana Kosingar, gouverneur de la région du lac et qui se trouve actuellement à Ngouboua.
Toujours concernant Boko Haram, un important chef présumé du groupe, qualifié de financier des djihadistes dans la zone de Diffa, a été arrêté aujourd'hui selon l'agence France-Presse, qui cite un responsable politique de la région, de cette région du Niger, Félix Yepassizembo.
Kakabounou, alias capitaine, est âgé d'une 30aine d'années, selon un habitant de Diffa qui le présente comme le banquier qui recrute les jeunes pour le compte de Boko Haram. Ses liens avec Boko Haram étaient bien connus de tous, mais personne n'osait le dénoncer par peur de représailles, selon le chef local qui s'est confié à l'AFP. La ville de Diffa a connu 5 attaques cette dernière semaine. La dernière d'entre elles, mercredi, avait été déjouée quand une unité antiterroriste avait abattu une femme suspecte transportant des explosifs. Le gouvernement nigérien a proclamé mardi soir l'état d'urgence dans la région de Diffa. Cette mesure permet aux forces de sécurité de procéder à des perquisitions du jour comme de nuit afin de neutraliser les cellules dormantes dont Boko Haram dispose au Niger. Lundi, l'Assemblée nationale du Niger avait voté à l'unanimité l'engagement au Nigeria de troupes pour combattre les islamistes.
Et dans le nord-est du Nigeria, deux attaques distinctes attribuées à Boko Haram ont fait au moins 21 morts. Hier, on compte 12 victimes dans le village d'Akida, dans l'état de Borno, d'après l'AFP. Cette attaque a eu lieu en pleine nuit, alors que les villageois dormaient. 9 autres personnes auraient également été tuées à Mbuta. Durant leur raid, les assaillants auraient également détruit des domiciles et des boutiques. Les hommes de Boko Haram auraient accusé les villageois d'être des espions pour les autorités militaires.
On reste au Nigeria où la campagne pour les élections présidentielles et parlementaires suit son cours. Les violences liées au scrutin ont fait 58 morts depuis décembre, d'après la Commission nationale des droits de l'homme, qui dénonce des discours de haine et craint des victimes supplémentaires.
Au Mali, les Nations Unies ont nommé 3 experts indépendants pour mener une enquête sur la mort de 3 personnes le 27 janvier lors d'une manifestation contre la mission de l'ONU à Gao, au nord du Mali. Le communiqué de l'ONU affirme que ces experts se rendront rapidement sur place. Les protestataires, rappelons-le, reprochaient à la MINUSMA d'avoir conclu un accord avec les rebelles qui allait aboutir, selon eux, au désarmement ou au retrait des forces loyalistes de la ville.
Suite des accusations d'exécution extrajudiciaire contre l'armée burundaise, à Bujumbura, le procureur général annonce la création d'une commission d'enquête judiciaire chargée de faire la lumière sur les allégations de Human Rights Watch. Lionel Gaïma nous en dit plus.
À peine 24 heures après le rapport accusateur de l'ONG, la justice burundaise a très vite réagi par la voix de Valentin Bagorinkunda. Le procureur général a mis sur pied une commission d'enquête judiciaire composée de 3 officiers du ministère public. Cet organe a un mois pour faire la lumière dans cette affaire et remettre son rapport. Si des violations des droits de l'homme sont avérées, la justice burundaise promet de poursuivre les auteurs. Human Rights Watch accuse l'armée et la police burundaise d'avoir commis au moins 47 exécutions extrajudiciaires entre le 30 décembre et le 3 janvier dernier. Les jeunesses du parti au pouvoir, les Imbonerakure, sont aussi mises en cause. Les affrontements ont eu lieu entre les forces gouvernementales et un important groupe rebelle qui s'est infiltré dans le pays depuis la République démocratique du Congo.
Du nouveau sur le procès Hissène Habré, les chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises ont décidé de renvoyer l'ancien dictateur tchadien devant une juridiction de jugement. Ils ont conclu qu'il y avait suffisamment de preuves pour qu'Habré soit jugé pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre et torture. Le procès devrait commencer en mai ou en juin prochain à Dakar. Pour Human Rights Watch, il s'agit d'une étape majeure dans sa traduction en justice.
En Guinée, 85% des élèves ont repris le chemin des classes, annonce l'UNICEF. Les établissements scolaires avaient été fermés pour enrayer la progression de l'épidémie d'Ebola.
En Libye, des djihadistes se réclamant du groupe État islamique ont pris le contrôle d'une radio locale à Sirte. Ils diffusent des versets du Coran ou des discours du chef Abou Bakr al-Baghdadi, le leader de ce groupe, d'après un témoin cité par l'agence France Presse. À noter que l'État islamique a également installé un quartier général à Sirte qui se situe à 500 km de Tripoli.
Libération conditionnelle de 2 journalistes d'Al Jazeera en Égypte, Mohamed Fahmy et Baher Mohamed, sont sortis de prison aujourd'hui après avoir passé plus d'un an derrière les barreaux. Accusés d'avoir falsifié des informations pour soutenir l'opposition islamiste et les frères musulmans, ils doivent attendre la suite de leur procès.
Du nouveau sur les incidents violents lors de la demi-finale de la CAN entre le Ghana et la Guinée équatoriale. Les 149 personnes arrêtées ont été tout simplement pardonnées par le président équato-guinéen Teodoro Obiang et sont libres, c'est ce qu'a annoncé ce vendredi la Cour suprême à Malabo.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Pas de répit dans les violences dans l'Est séparatiste pro-russe en Ukraine. Au moins 27 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures selon l'AFP. Jean-Roger Billon nous en dit plus.
Les violences n'ont pas cessé alors qu'un nouveau cessez-le-feu prévu par les accords de paix signés jeudi à Minsk doit entrer en vigueur dimanche, mais de nombreux responsables ont fait part de leur méfiance quant à sa mise en œuvre. La chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande, qui ont participé au sommet de la capitale biélorusse, ont dès jeudi laissé entendre qu'il y aurait des difficultés à appliquer Minsk 2 et ont menacé la Russie de lui imposer de nouvelles sanctions si la trêve échouait. Les États-Unis ont laissé le couple franco-allemand seul sur la scène diplomatique pour parvenir à un accord sur l'Ukraine avec la Russie, mais Washington a soutenu en coulisses ses alliés européens et maintient la pression sur Moscou.
L'État islamique a attaqué une base militaire de l'ouest de l'Irak sur laquelle quelques 300 soldats américains entraînent les forces de sécurité locales. C'est ce qu'affirment le Pentagone et des responsables irakiens. Aidés par des avions de la coalition internationale, les forces irakiennes ont déjoué l'attaque contre l'imposante base aérienne d'Al-Assad, située dans la province d'Al-Anbar, en grande partie aux mains de l'État islamique.
À Peshawar, une mosquée chiite a été frappée par les talibans pakistanais en pleine prière du vendredi. Bilan provisoire, 19 morts, exactement deux semaines après l'attaque d'une mosquée chiite dans la région du Sindh, ayant fait plus de 60 morts. Une autre mosquée chiite a été visée.
En Égypte, un officier a été tué ce vendredi dans la banlieue du Caire par un nouvel attentat à la bombe visant la police. Cette attaque a aussitôt été revendiquée par un groupe djihadiste selon le ministère de l'Intérieur. Sept policiers et un civil ont également été blessés dans l'attentat.
$50 millions pour financer l'aménagement routier et la facilitation du commerce, c'est le montant des prêts que consentira la Banque africaine de développement, la BAD, à la Guinée. Les deux parties ont signé des accords dans ce sens hier à Abidjan. L'Algérie doit accélérer ses réformes économiques, a fait savoir le directeur du département Moyen-Orient et Afrique du Nord du FMI, que cite l'AFP. Selon Massoud Ahmed, qui s'exprimait hier à Alger, le pays dispose d'atouts susceptibles de l'aider à faire face aux conséquences de la chute des prix du pétrole. Ici, aux États-Unis, sommet high-tech aujourd'hui en Californie avec la participation du président Barack Obama. Le chef de l'exécutif entend mobiliser les compétences du secteur privé en soutien aux nouvelles mesures contre la cybercriminalité et ce, après les récentes attaques contre les réseaux informatiques de grandes compagnies comme Target, Sony ou Anthem. Également au programme de M. Obama aujourd'hui, la signature d'un décret visant à encourager les compagnies privées à partager avec le gouvernement les informations sur les menaces contre les réseaux informatiques. Toujours ici, aux États-Unis, près de 64 millions de voitures ont été rappelées en 2014 pour des problèmes techniques, un nombre record selon la NHTSA, l'Agence américaine de la sécurité routière, que cite l'AFP.
C'était la Minute Éco avec Timothée Donongmaï.
VOA Afrique, place à présent au sport, Morgan.
Le football continental reprend ses droits ce week-end avec le premier tour aller de la Ligue des Champions.
Qui succédera aux Algériens de l'Entente sportive de Sétif ? 57 clubs sont sur la ligne de départ. Parmi les clubs à suivre, le finaliste de la dernière Coupe de la Confédération, le CEO Sport San Pedro, champion de Côte d'Ivoire ces trois dernières saisons. Le club portuaire aura fort à faire face aux Guinéens de la AS Kaloum. À suivre aussi Al Ahly Tripoli contre un nouveau venu égyptien, Smouha, et puis le Recreativo de Libolo contre Sangabalende ou le club olympique de Bamako contre le Maghreb de Tétouan sont exemptés de ce tour. Sétif, le Coton Sport de Garoua, l'AS Léopard de Dolosie, Al Ahly d'Égypte, le tout-puissant Mazembe et les clubs tunisiens du CS Sfaxien et de l'ES Tunisie. Finaliste de la dernière édition, l'AS Vita Club n'est en revanche pas qualifié cette année.
Retour aussi de la Coupe de la Confédération.
Qui succédera aux Égyptiens d'Al Ahly, sacré en 2014, les Nigériens du Sahel SC chez le Mouloudia Club d'Alger, Renaissance Berkane face aux 11 créateurs maliens, l'Unisport du Honkam, le club camerounais face à Olympique Ngor, le club de Dakar, le club béninois de Police en déplacement au Ghana chez les Heart of Oak, Oroya de Guinée face à Fassel, le club du Liberia, et puis le RC Bobo Dioulasso face aux Warri Wolves du Nigeria. Enfin, l'Aesport, le club togolais, reçoit le CARA, le club du Congo-Brazzaville.
L'avenir de Hervé Renard en question en Côte d'Ivoire.
Quelques jours après sa victoire à la CAN 2015 avec la Côte d'Ivoire, le sélectionneur Hervé Renard a évoqué son avenir pour la première fois au micro de la radio française RMC. Le sélectionneur n'exclut pas un retour en Ligue 1.
En championnat nord-américain de basketball, la NBA, un seul match hier.
Oui, les Chicago Bulls l'ont emporté face à Cleveland, 113-98. C'était la dernière rencontre du championnat disputée avant le All-Star Game qui aura lieu ce dimanche à New York au Madison Square Garden.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nicolas Pineau et Morgan Guiriec en votre compagnie. Place au dossier du jour. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a publié hier le calendrier complet des élections avec un budget de près de 1,5 milliard de dollars, Nicolas.
A-t-elle pour autant tous les moyens pour tenir ces scrutins, dont le point d'orgue sera la présidentielle et les législatives prévues le 27 novembre 2016? Eddie Sango a posé la question à celui qui a publié ce rapport, le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba.
Nous espérons que cette année, on veut de nous donner ce qui est le débit, parce que ça ne se fait pas en totalité pour garder chez nous, on nous le donne progressivement, avec les moyens du gouvernement pour le faire. Et la parole suivante nous sera donnée en 2016. Donc nous espérons jusqu'à que nous sommes en train d'évoluer. En cas de difficulté, nous ne manquerons pas de le dire, mais jusque-là, il ne faut pas tromper, nous évoluons encore à l'époque.
Êtes-vous assez réaliste parce qu'on sait que les élections passées ont été financées en grande partie par l'extérieur? Est-ce que cette fois-ci, vous avez des promesses de l'extérieur? Où allez-vous trouver cet argent?
Donc, qu'on se dise que 2006, c'était la communauté internationale avec une petite base du gouvernement. Mais en 2011, le gouvernement est venu. Et ceci, quoi, ce n'était pas un cycle complet. Ce n'était que pour les élections présidentielles, législatives, nationales. Donc, nous espérons. Et les élections étant un problème de souveraineté nationale, le gouvernement va s'assumer. Mais n'empêche que dans le budget, la loi dit que nous avons la part du gouvernement et nous pouvons aussi bénéficier des aides bilatérales et multilatérales.
La MONUSCO est là, vous parlez de l'armée et de la police qui sont là, mais il y a des coins qui sont encore non sécurisés, comme par exemple autour de Beni. Est-ce que vous pensez pouvoir organiser des élections sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo avec une telle insécurité?
Il est vrai qu'il y a quelques poches résiduelles déjà passées. J'ai entendu le gouverneur du Nord qui parlait de Beni, mais vous me dites que Beni, on ne saura pas organiser les élections, alors que le gouvernement est appelé. Mais tout ce que nous savons, que les conditions actuelles sont quand même meilleures par rapport à 2006. Mais les projets ont parcouru presque une bonne partie des familles de la République et nous ont déjà ramené les éléments qui sont en train d'être centralisés pour produire la place. C'est qu'on a quand même couvert une bonne étendue de la République. Il y a des proches de résistance par-ci par-là. Ce n'est pas le gros, parce que le sud, l'ouest, le centre, et le nord, vers Kisangani, il y a des petites poches au nord. Du moins, on suppose que les élections de 2006 et de 2006, de 2011, n'étaient pas moins bien que nous allons organiser en 2015 et 2016.
Jean-Pierre Kalamba, le rapporteur de la CENI, il était joint à Kinshasa.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Télé Mwangaza, à Lubumbashi, province du Katanga.
Dis-moi. Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Tandis que les pourparlers intermaliens se poursuivent à Alger, Morgan, le président Ibeka fait une sortie qui n'est pas passée inaperçue.
Ibrahim Boubacar Keïta a déclaré qu'Iyad Agali, le chef d'Ansardi, n'est toujours une menace pour le processus de paix. Idriss Fall a joint Shahana Takiou, directeur du journal le 22 septembre à Bamako.
Iyad constitue une menace pour la paix au Mali parce que c'est un séparatiste islamiste dangereux qui vit toujours. Il est dans la zone et c'est quelqu'un qui représente un symbole. C'est une personnalité, j'allais dire, qu'on adore dans l'adrar des Ifogas. Le principal mouvement armé aujourd'hui est le HCIA, le Haut Conseil pour l'Unité de l'Azawad, a comme référence Iyad Agali. Rappelez-vous que Iyad, ce mouvement s'appelait Ansardine et Al-Ghabbas Aguintala était le numéro 2 de ce mouvement. Ce mouvement a été considéré comme un mouvement terroriste, un mouvement islamiste. Et c'est Iyad seulement qui a quitté la tête du mouvement et les autres se sont mués en Haut Conseil pour l'Unité de l'Azawad. On les a déclarés fréquentables. Leur chef est là-bas, tapis dans l'ombre, on ne le cherche pas, on ne le traque pas. Donc il constitue une menace sérieuse pour la paix, parce que ceux qui sont là-bas, qui négocient aujourd'hui au nom de la fantomatique Azawad, ne jurent que par Iyad Agali.
D'autant que toutes les rébellions qu'il y a eu au Mali ont commencé à Kidal et avec Iyad Agali.
Oui, cette fois-ci,
Yadagali a perdu le Nord parce qu'il a dit que l'Azawad ne sera pas un État laïque. Il faudrait instaurer la charia, il faut l'indépendance. Donc Yad était à la tête de toutes ces rébellions, mais cette fois-ci, il est devenu un séparatiste, un islamiste. Donc ce n'est pas le même idéal que les rébellions passées. Il constitue vraiment un danger pour les négociations en cours.
Donc on négocie sans Yad, le résultat, ça va donner quoi alors?
Bon, c'est-à-dire qu'on tourne rond. Ceux qui vont négocier là-bas, ce sont les poulains de Yad. Tout ce qu'ils disent, ils retournent. Yad n'est pas d'accord avec eux. Ils sont obligés de revoir ce qu'ils disent, de revoir ce qu'ils font. Et souvent, ce qu'ils disent est différent de ce qu'ils pratiquent sur le terrain.
Sur le terrain, on a vu les récents affrontements de Tabankor à Anéfis.
Absolument. Le cessez-le-feu a été violemment violé. Tous les cessez-le-feu ont été violés. Les mouvements de Kidal bougent comme ils veulent. Ils s'attaquent à ce qu'on appelle les milices pro-gouvernementales et menacent même d'abandonner la table de négociation tant que ces milices-là ne sont pas désarmées.
Notre confrère malien Chana Takiou joint à Bamako.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Retour aux États-Unis, à Washington, où cinq sénateurs républicains et démocrates ont introduit hier une proposition de loi visant à lever l'embargo imposé il y a un demi-siècle à Cuba. Un récent sondage a en effet montré que plus de 60% des Américains y sont favorables, et notamment les agriculteurs. Michel Joseph nous dit pourquoi.
La saison des semailles est encore loin, mais le fermier Thomas Martin jubile à l'idée de pouvoir bientôt vendre une plus grande partie de sa production à Cuba, une fois l'embargo levé.
Dans nos champs, nous cultivons en fait beaucoup de maïs de spécialité, de maïs dur, endosperme, destiné presque exclusivement au marché d'exportation. Ainsi, nous verrions des bénéfices pour nos propres opérations en cas d'exportation additionnelle vers Cuba.
Thomas Martin a déjà fait ses calculs. Une levée de l'embargo contre Cuba se traduirait par 15% de profit de plus pour sa ferme, du jamais vu depuis plus de 50 ans, fait-il remarquer. D'autres fermiers américains n'ont pas attendu l'ouverture vers Cuba, annoncée par le président Obama, pour s'attaquer au marché cubain. Mark Albertson dirige l'association du soja de l'État de l'Illinois.
L'agriculture a été exemptée de l'embargo grâce à la loi sur la réforme des sanctions commerciales prise sous l'administration Clinton, mais nous avons beaucoup de formalités à remplir.
L'une des difficultés est l'interdiction d'accorder du crédit à Cuba. Les Cubains doivent payer d'avance et en espèces.
Cela nous rend très peu compétitifs et nous avons vu un déclin drastique de nos exportations agricoles vers Cuba ces dernières années.
En accordant des facilités de crédit à l'île et en levant l'embargo, les États-Unis deviendront extrêmement compétitifs, compte tenu surtout de leur proximité avec Cuba, estime Paul Johnson, président de la coalition agricole américaine pour Cuba. L'excitation est à son comble dans les milieux d'affaires américains à l'idée que Cuba leur sera bientôt ouvert. Le fermier Thomas Martin fait partie d'une délégation de 75 représentants des secteurs agricoles et des affaires des États-Unis s'apprêtant à se rendre dans l'île le mois prochain.
Il y a assurément beaucoup de problèmes sur lesquels nous devons travailler pour ce qui est des droits humains. En tant que fermier et catholique, je vois que beaucoup d'églises sont fermées à Cuba et cela me préoccupe. Cela dit, 54 ans d'embargo ont très peu accompli en termes d'amélioration des droits humains à Cuba.
Dans son discours sur l'état de l'Union en janvier, le président Barack Obama a appelé le Congrès à entamer les efforts visant à mettre un terme à l'embargo contre Cuba. Le fermier Martin espère que cela se fera à temps et que ses silos de maïs et de soja trouveront des importateurs dans la plus grande des Grandes Antilles.
Et Nicolas, on fêtera demain la Saint-Valentin.
Et oui, peut-être que vous serez gâté, Morgane, mais en tout cas, certains se demandent si c'est la fête des amoureux ou si c'est une fête commerciale. Beaucoup s'interrogent, notamment en Afrique. Et notre correspondante Kay Lawson a posé la question dans les rues de Lomé. On l'écoute.
Je m'appelle Aristide. Je compte fêter ça avec ma petite amie. Donc, essayer de lui offrir un cadeau pour lui témoigner mon amour. Pour le moment, rien de prévu. C'est lorsqu'elle descendra du boulot qu'on va essayer de concorder quelque chose à deux. Je compte lui offrir une peluche juste pour lui témoigner mon amour. Je me dis que la fête de la Saint-Valentin, c'est une fête où on célèbre l'amour.
Nous aussi, on attend demain voir ce que nos amoureux peuvent nous apporter comme cadeau et des surprises et des invitations. Donc, on attend la fête impatiemment.
Oui, la Saint-Valentin, comme on le dit souvent, c'est la fête des amoureux. Donc, moi, je crois que quand on parle de l'amour, il y a plusieurs types d'amour. Donc, du fait que tu aimes ou bien tu es en contact avec tes amis, déjà, quoi. Donc, comme il y a les camarades ensemble, on peut se voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un vendredi. Et la fête de Saint-Valentin même, c'est tombé sur un week-end qu'on ne peut pas se voir. Donc c'est pourquoi on veut se célébrer en même temps aujourd'hui avec les amis et la Saint-Valentin. C'est pourquoi on est tous en rouge. Si j'ai une Valentine, il y a des fleurs un peu partout que je vois, des t-shirts, des petites robes signées Saint-Valentin. Donc je peux l'offrir une d'entre ces fleurs et choses-là pour le faire plaisir.
La Saint-Valentin dans les rues de Lomé et Issiakaba qui lui espère une télévision. On verra ça demain. C'était évidemment Kai Lawson qui a tendu son micro dans la capitale togolaise.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Retrouvez-nous ce vendredi pour écouter de la bonne musique des îles. Zouk Music, Soca Music, du bon reggae. Et les amis, ne ratez pas cette émission parce que nous aurons l'honneur, le privilège d'avoir l'artiste Mehdi.
Bonjour, je suis Mehdi, je serai avec vous dans RM Show de Roger Montou sur VOA Afrique.
Mais voilà les amis, ne ratez pas, appelez-nous au 001-202-619-31-40 et vos commentaires sur notre groupe Facebook Roger Montou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas de la bonne musique le vendredi seulement ici sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Première attaque de Boko Haram en territoire tchadien, la presqu'île de Ngouboua sur les rives du lac Tchad visée. Au moins 7 personnes sont mortes.
Dans le nord-est du Nigeria, 2 attaques distinctes ont fait au moins 21 morts dans l'état de Borno.
Et au Niger, c'est un chef de Boko Haram qui a été arrêté dans la région de Diffa.
Au Burundi, mise en place d'une commission d'enquête suite aux accusations d'exécution extrajudiciaire. Un rapport sera remis dans un mois.
Au Mali, les Nations Unies ont nommé 3 experts indépendants pour mener une enquête sur la mort de 3 personnes le 27 janvier lors d'une manifestation contre la mission de l'ONU à Gao, dans le nord du Mali.
En Ukraine, les combats se poursuivent malgré l'entrée en vigueur dimanche du cessez-le-feu.
Et puis du nouveau sur le procès Hissène Habré, les chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises ont décidé de renvoyer l'ancien président du Tchad devant une juridiction de jugement. Il sera jugé pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture.
L'État islamique a attaqué une base militaire de l'ouest de l'Irak sur laquelle quelques 300 soldats américains entraînent les forces de sécurité locales, selon le Pentagone et des responsables irakiens.
Et ne manquez pas évidemment demain 14 février, la Saint-Valentin, fête commerciale ou fête des amoureux. N'hésitez pas à nous donner évidemment votre avis sur la question. Voilà, ainsi va s'achever notre émission. La mise en onde était assurée par Issiakaba, Nicolas Pinault et Morgane Guiriec étaient à la présentation.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.